Tournez avec nous, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Luc. On va aller au chapitre 4, verset 14. Et ce matin, avant de passer à la lecture des Écritures, je vais juste mettre un petit peu de contexte, un peu d'information historique pour comprendre un peu mieux le passage, parce que ça se passe quand même il y a 2000 ans. Ça demande des fois un petit peu de connaissance historique pour suivre ce qui est en train de se passer. Déjà, je veux juste mentionner au niveau du mouvement dans le texte, Jésus commence son ministère, d'accord? Jésus a été conduit au désert, si vous vous rappelez la semaine dernière, par l'Esprit Saint, pour être mis à l'épreuve, qualifié pour le ministère. Et là, il entreprend son ministère. Lorsqu'on le trouve au verset 14, ça fait probablement déjà quelques semaines, quelques mois que son ministère est commencé. Vous verrez dans les premiers versets, on n'a pas de précision. Et quelques informations. Vous allez voir apparaître des synagogues. Parce que Jésus enseignait dans les synagogues. Qu'est-ce que c'est les synagogues? C'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Alors, les historiens ne s'entendent pas exactement pour savoir à quel moment précisément les synagogues sont apparues dans la culture juive. Fort probablement qu'elles sont apparues après les déportations. Le peuple juif dans l'Ancien Testament a subi plusieurs déportations, c'est-à-dire qu'ils étaient conquis par un autre peuple, puis étaient emportés littéralement, comme c'était la coutume lorsqu'un conquérant venait, déstabilisait le peuple conquis en déportant une partie de la population. Et donc, les Juifs déportés se retrouvaient dans un autre pays, dans une grande capitale peut-être, et devaient trouver un moyen d'entretenir, de préserver leur foi. Et on pense que c'est là que les synagogues sont apparues. Ça devenait un endroit d'étude de la Bible, donc de lecture de la Bible, de lecture de l'Ancien Testament à l'époque, d'enseignement et de prière. D'accord? Et donc, on trouve Jésus ici dans Luc, qui va dans différentes villes, différents villages, se rend à la synagogue pour pouvoir enseigner. On va voir un passage qui est inclus dans ce passage-là. Il va y avoir une citation d'un prophète de l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, je m'excuse, j'ai un petit rhume. Dans l'Ancien Testament, particulièrement, plus que dans le Nouveau encore, on trouve des individus qui sont choisis par Dieu pour recevoir de Dieu. Phénomène surnaturel. Quand on est dans la Bible, il faut apprendre à vivre avec le surnaturel lorsque tu lis les Écritures. Et donc, des individus qui reçoivent de Dieu, par une œuvre de son esprit, une parole de communication, une révélation qui est à donner au peuple, d'accord? Et donc, il y avait le ministère d'un prophète était pour son époque et généralement, bien souvent, pour le futur aussi. Donc, il y avait un message à apporter au peuple où il s'adressait au peuple qui était là, contemporain, puis il leur adressait soit des encouragements, des réprimandes de la part de Dieu, mais souvent, il y avait aussi des prophéties qui étaient là, qui annonçaient des choses à venir. Et Jésus va lire un passage, puis il va dire, voici cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. C'est un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et dernière chose que je veux mentionner, parce que là, quand on parle de surnaturel, là, vous pensez que l'Halloween, c'est flyé, c'est rien l'Halloween comparé à la Bible. Question d'esprit impur et de démon dans ce passage-là. Une des choses qu'on découvre lorsqu'on commence à lire les évangiles, il y a 4 évangiles dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Lorsqu'on commence à lire les évangiles, une des choses qu'on découvre, c'est que lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus a dérangé du monde. D'accord? C'est évident qu'il a dérangé des autorités religieuses de son temps, il a dérangé les Romains de son temps. Mais c'est très clair aussi en lisant les évangiles que Jésus a dérangé du monde que nous, on ne voit jamais. Il y a eu des manifestations d'un monde qui nous est généralement invisible, des esprits impurs, des démons. Et comme chrétien, je n'ai pas de difficulté à croire à ça. Il faut réaliser en partant qu'on est dans une église, donc on prie Dieu qui est invisible. Okay? Fait que pour moi, de dire qu'il y a une dimension qui n'est pas accessible, c'est mon expérience personnelle. Je crois vraiment que j'ai une âme, je ne l'ai jamais vue. Et je crois vraiment qu'il y a un Dieu créateur qui existe. C'est pour moi la perspective la plus rationnelle pour expliquer plein de mystères. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé clairement lorsque Jésus est venu, d'une manière exceptionnelle, comme ça ne s'était jamais produit avant sa venue et comme ça ne se produira jamais après sa venue. Parce qu'il y a eu des manifestations et des miracles aussi, comme jamais ça s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Et donc, on va avoir un aperçu de ça ce matin. On va avoir l'occasion d'y revenir parce que ça va faire, Ça va faire partie pratiquement du quotidien du ministère de Jésus. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. En terminant, avant de prier, je veux juste vous mentionner, la semaine prochaine, on va être encore dans Luc. On va être dans Luc 5, 1 à 6, 16. Et je pense que vous allez voir ce matin l'importance de vous préparer. D'accord? Donc, je le dis à chaque semaine, prenez le temps de lire ce passage-là qui va être étudié la semaine prochaine. Luc 5, 1 à 6, 16. Relisez-le, partagez en famille, annotez vos questions. Vous allez d'autant plus en être enrichi lorsqu'on va l'étudier ensemble le dimanche matin. Allons dans la prière. Père éternel, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut prendre pour s'arrêter dans notre semaine, pour écouter ta parole, Seigneur, et pour réfléchir ensemble, être à l'écoute aussi de ce que toi, tu veux nous dire à travers ta parole, à chacun d'entre nous personnellement, individuellement, là où on est dans notre cheminement. Je te prie, Père, d'être avec Luc qui va nous lire les Écritures, d'être avec moi, Seigneur, alors que je vais chercher à exposer ton message, à l'appliquer, Seigneur, dans nos vies. Je te prie d'être avec chacun d'entre nous dans cette salle, Seigneur. Donne-nous un esprit réceptif, à l'écoute. Viens nous rencontrer, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Écoutons la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin, tiré du livre de Luc, chapitre 4, versets 14 à 44. Puis ça va se faire dans la nouvelle édition de Genève. Donc, je répète, chapitre 4, 14, 44. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendait à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, faites ceci dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. » Mais, ajoute-t-il, « je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Néaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, et lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capharnaüm, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et il sort. » et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quitte point. Mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée.
Merci, Luc. Des questions pour vous ce matin pour commencer. Réfléchir un petit peu ensemble. Peut-être que vous n'êtes jamais posé ces questions-là. Quel royaume sers-tu? Peut-être que vous dites, de quoi tu parles? Est-ce que tu sers ton royaume ou le royaume de quelqu'un d'autre? Si on prenait la vie, OK, puis qu'on prenait comme métaphore l'idée d'un royaume, quel royaume est-ce que tu es en train de servir? Est-ce que c'est présent à chaque étape de ta vie, ces questionnements-là? Tu as 15 ans. Tu as 15 ans, tu dis, la vie est devant moi, je veux commencer à prendre possession de ma vie. Avant, c'était un peu mes parents qui me dirigeaient, je veux prendre possession de ma vie, je veux faire ce que je veux faire de ma vie. Tu as 20-25 ans. Tu dis, je commence à sentir vraiment que je saisis ce que je veux faire de la vie. Tu as 30 ans. Tu regardes ta vie, tu regardes les années derrière, tu dis, j'ai plus de temps à perdre si je veux accomplir quelque chose ici. Tu as 40, tu as 45 ans, mon cas. Tu dis, je pense que je me connais là. Je pense que je sais là où je peux contribuer le mieux. Je pense que je mesure mieux qui je suis. Tu as 50, tu as 60 ans, tu dis, la vie passe vite. La vie passe vite. Est-ce que je vais avoir le temps de réaliser les choses que j'aimerais réaliser? Tu as 65, 70, 80, 85 ans. Tu regardes en arrière, puis si quand tu regardes en arrière, le bilan est bon, tu dis, c'est bon, je pense que je vais bien finir cette vie-là. Si le bilan est amer, tu dis, est-ce qu'il me reste du temps pour racheter quelque chose, pour rattraper des choses? Mais à chacune de ces étapes-là de la vie, est-ce que tu t'arrêtes seul avec toi-même pour te poser ces questions-là, pour envisager ce que tu veux faire de ta vie, pour envisager ce que tu es en train de faire de ta vie, pour envisager ce que tu as fait de ta vie? Ou est-ce qu'à chacune de ces étapes-là, tu t'arrêtes dans la prière, tu vas consulter Dieu, puis tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec cette vie-là? Comment est-ce que je peux te servir? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le royaume de Dieu? Moi, personnellement, Yannick Étier, je pourrais résumer ma conversion au christianisme, d'accord? Quand j'ai embrassé la foi chrétienne, j'étais majeur, je pourrais résumer ma conversion ainsi. C'est le jour où j'ai décidé que j'arrêtais d'essayer de construire mon propre royaume, où Yannick allait être au centre de ce royaume. Ça allait être le petit royaume de Yannick. J'ai renoncé à ça parce que je trouvais que ça s'en allait nulle part, cette affaire-là. Et à ce moment-là, j'ai fait un choix très clair. Non seulement j'ai donné la direction de mon royaume, mais j'ai renoncé à bâtir mon royaume. Complètement. J'ai dit, je ne veux pas appartenir au royaume de Yannick. Je veux appartenir au royaume de Dieu, Et ce ne sera pas moi le roi dans le royaume de Dieu. Ça va être quelqu'un d'autre. Parce qu'il est plus sage, il est plus grand et je veux le servir. Et je peux dire, 45 ans cette année, je peux dire que depuis ce temps-là, à chacune de ces étapes-là, les moments tournants, hein, lorsqu'on vieillit ou les années passent puis on se pose des questions, à chacun de ces moments-là, dans la prière, j'ai consulté avec Dieu. J'ai cherché la face de Dieu pour dire, « Seigneur, comment est-ce que tu veux que je te serve dans ton royaume? Comment est-ce que je peux te glorifier? Comment est-ce que tu veux que je sois utile dans ton royaume? Quel royaume est-ce que tu sers? À quel royaume appartiens-tu? » Ce matin, dans le passage avec Jésus, avec Luc, on va commencer à explorer l'idée, la notion du royaume de Dieu. Ça va devenir super important parce qu'à travers l'évangile de Luc, l'expression elle-même « royaume de Dieu » va revenir 33 fois, d'accord? Il y a 5 chapitres, sur les 24 chapitres de l'évangile de Luc, il y a 5 chapitres où l'expression « royaume de Dieu » n'est pas mentionnée. On va découvrir ensemble c'est quoi le royaume de Dieu. On va découvrir ensemble comment on vit dans le royaume de Dieu. On va découvrir ensemble c'est quoi les valeurs du royaume de Dieu. On va découvrir est-ce qu'il y a de l'autorité dans le royaume de Dieu? Est-ce que le royaume de Dieu, c'est ici et maintenant ou est-ce que c'est plus tard? On va explorer ça progressivement avec Luc, parce qu'on ne veut pas voler de punch. Puis il va nous l'exposer tranquillement. Mais ce matin, on va voir ensemble que Jésus-Christ est celui qui a apporté le royaume de Dieu parmi nous. Personne avant lui, comme lui, personne après lui. Jésus-Christ est celui qui a apporté parmi nous le royaume de Dieu. Alors, le ministère de Jésus commence. Ça fait, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois que Jésus est en train de se promener en Galilée. Il va de village en village, de ville en ville, puis il va dans des synagogues. Il annonce la bonne nouvelle du royaume, comme on le voit à la fin de ce passage-là. Et puis, il décide de retourner dans son village natal. Il s'en va à Nazareth. Et puis, le jour du sabbat, c'est la journée vraiment qui était consacrée par les Juifs pour célébrer Dieu, pour se reposer aussi. Et donc, il rentre, comme c'était sa coutume, dans la synagogue. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, dans la synagogue, ben qu'est-ce qu'on faisait? On lisait les Écritures, souvent suivant une espèce de liturgie, c'est-à-dire qu'il y avait comme un programme. C'était pas toi qui choisissais ce que tu allais lire. On traversait l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'avait pas été écrit, évidemment, encore à cette époque-là. Et donc, Jésus s'en va là, puis c'était de coutume. Des fois, si on avait quelqu'un qui était réputé être un enseignant de la parole, de l'inviter à prendre la parole. Alors, Jésus vient, c'est le petit gars de la place, puis tout le monde a commencé à entendre parler des choses qu'il enseigne ailleurs, puis qu'il enseigne avec autorité, puis plus que ça encore, il y a des miracles, semble-t-il, qu'il fait ailleurs. Alors, on est un peu sceptique, on veut l'entendre, on veut voir c'est qui ce gars-là, c'est-tu vrai ces affaires-là. Fait qu'on va le traiter comme un enseignant. Il prétend l'être, on va le faire. Alors, on lui apporte les rouleaux. Alors, à l'époque, évidemment, c'était pas des tablettes électroniques, puis chut, on s'en va là-dedans. On apporte un rouleau. C'est important de le réaliser parce que Jésus n'a pas choisi quel rouleau on lui apportait. D'accord? Vous comprenez que si on parle de tout l'Ancien Testament, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu une Bible en papier, là, une vraie Bible, là, si vous avez déjà vu une Bible en papier, mais si tu mets ça en rouleau, il va être long. Tu comprends? Ça va être vraiment, vraiment long. Et donc, les livres étaient séparés dans des rouleaux, puis c'était des grands rouleaux, puis là, on t'apporte le rouleau, tout ça, puis on lui apporte Ésaïe, fait que Jésus s'en va là-dedans, sort son index, fait une recherche Google pour trouver son endroit, boum! Il s'en va dans Ésaïe, Ésaïe 61, Ésaïe 58, et puis va citer des portions de ce passage-là. Fait la lecture du rouleau, et comme c'était l'habitude, ensuite de ça, roule, le remet à celui qui l'a apporté, il s'assoit, puis on attend qu'il parle. Pour qu'il enseigne, pour qu'il commente le texte qu'il vient de lire. Et puis, voici son commentaire. Aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Drôle de Jésus, drôle de Jésus. On relit le passage ensemble, où on a ces citations d'Ésaïe 61, 1 et 2, une petite portion d'Ésaïe 58. Luc 4, 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, ce n'est pas Jésus qui commente, il est en train de lire les Écritures. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour délivrer les captifs, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Il remet le rouleau, il s'assoit, puis il dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus est venu apporter un message qui annonce une bonne nouvelle. Puis là, je m'adresse à ceux qui ont une connaissance des Écritures. Nous, souvent, on va dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est vrai, parce que Jésus, la personne de Jésus, est au cœur de cette bonne nouvelle-là. Mais si je parle toujours seulement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas mis en valeur. Jésus s'en allait pas en disant « Je vais vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Il s'en allait en disant « Je vais vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. » Parce que Jésus vient annoncer un royaume nouveau qui vient parmi les hommes. Voyez-vous, dans cette parole de prophétie que Jésus lit ici, il y a de l'espoir qui est donné pour les pauvres. Jésus dit que cette parole s'accomplit où il va y avoir de la guérison pour les cœurs brisés. Il va y avoir de la délivrance pour les captifs, les prisonniers. Il va redonner la vue aux non-voyants. Maintenant, faites comme si vous aviez jamais lu l'Évangile de Luc, d'accord? On lit pour la première fois ensemble. On ne connaît pas tout sur Jésus. De quoi est-ce qu'il parle ici? Est-ce qu'il parle de pauvreté matérielle, bien physique, spirituelle? Comment Jésus veut réparer les cœurs brisés? Il vient guérir les cœurs brisés, défibrillateurs. Qu'est-ce qu'il s'en vient faire? De quelle captivité est-ce que Jésus vient libérer? Est-ce qu'il va lever une armée? Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, Israël est dans l'Empire romain. Qui sont littéralement en captivité. Ce sont des serviteurs de Rome. Est-ce que Jésus s'en vient lever une armée pour libérer les captifs de l'Empire romain? Moi, je suis convaincu que ça a été l'interprétation de plusieurs à ce moment-là. Est-ce que Jésus va commencer à guérir des aveugles littéralement? Est-ce qu'il va se promener puis il va commencer à redonner la vue à celui qui est non-voyant? J'ai des gens dans ma famille qui auraient aimé ça, aller voir Jésus. S'approcher de lui pour le voir après. Est-ce que tout ça, c'est littéral ou c'est spirituel? Et ce matin, ce que je vous demande de faire, c'est de rester avec moi là où on est dans Luc. Vous avez besoin de faire ça pour progressivement, au cours des prochaines semaines, que le royaume de Dieu prenne vraiment tout son sens dans votre esprit. Si vous comblez tout de suite le vide à toutes ces questions-là à cause de ce que vous savez sur Jésus, ça se peut qu'il y ait un enrichissement de la compréhension du royaume que vous obtiendrez pas. Parce qu'on n'a pas les réponses encore. On a juste des questions. Et c'est ça que Jésus est en train de faire. Jésus est en train de susciter une interrogation chez son auditoire et il ne donne pas les réponses. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes avaient annoncé un jour, puis les interprètes comprenaient que plusieurs de ces prophéties-là, qui avaient été faites à différentes époques par différents prophètes, tournaient autour d'à peu près le même événement. Les prophètes avaient annoncé qu'une délivrance viendrait où le peuple de Dieu jouirait vraiment de la présence de Dieu. Dieu serait vraiment au milieu d'eux, puis il y aurait une abondance de vie, une bénédiction. Il y aurait une éthique de vie au milieu du peuple de Dieu comme il n'y en a jamais eu. Il y aurait des relations saines. On serait là pour prendre soin les uns des autres. Il y aurait la protection de Dieu qui serait manifeste. Et donc, il y avait ces prophéties-là qui annonçaient une grande délivrance. Ces passages-là dans Ésaïe font partie de ces prophéties-là. Et Jésus vient et puis il dit « Aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. » Lorsque le passage se termine, passage qui parle de délivrance, puis là Jésus opère des miracles, tout ça, puis il enseigne. À la fin du passage, c'est pour ça qu'on a pris un passage aussi long ce matin, à la fin, la foule est là, puis ils disent « reste avec nous, enseigne-nous encore. » Puis Jésus dit non. Pour la première fois dans l'Évangile de Luc, l'expression va apparaître. Il dit non, je dois aller dans les autres villes annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je dois aller dans les autres villes pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et donc, ce qu'on peut dire à ce point-ci, si on se reporte à l'époque, ce qu'on peut dire à ce point-ci, c'est que le royaume de Dieu est inauguré. Il y a un commencement avec la venue de Jésus, il y a un début, il y a une inauguration d'une ère nouvelle où le royaume de Dieu va être annoncé et des prophéties de délivrance. C'est encore obscur de quoi il est question, mais de délivrance profonde. Commence avec la venue de Jésus-Christ. C'est le début du ministère de Jésus. Et ce qu'on va voir ce matin, puis je vais vous demander de retenir les deux éléments qui vont suivre maintenant. C'est important, c'est comme si Luc nous donne un échantillon de tout le ministère de Jésus. D'accord? Jusqu'au verset 44, là, si vous observez attentivement, vous avez à peu près tout le ministère de Jésus à part la croix. Et ce qu'on va voir ensemble très rapidement ce matin, c'est que le ministère de Jésus est caractérisé en parole et en action. Jésus vient avec un message qui n'a aucune commune mesure avec les prophètes et qui n'a aucune commune mesure avec tout ce que les religieux de l'époque enseignaient. Et Jésus vient avec des actions incomparables aussi, en parole et en action. Parole de grâce et d'autorité. On lit au verset 14-15, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié. » Très, très tôt dans le ministère de Jésus, les gens l'écoutaient, puis ils disaient, « Ce gars-là enseigne si le peuple juif a entendu quelqu'un enseigner avec autant d'autorité, il faut retourner vers les prophètes, au moins 400 ans en arrière. » Ça fait au moins 400 ans qu'on n'a pas entendu quelqu'un affirmer des choses comme ça. Parce que les enseignants, généralement, faisaient ce que je fais ce matin. Ils commentaient le texte biblique, ils expliquaient le texte biblique. Mais Jésus vient et il dit, aujourd'hui, cette prophétie-là s'accomplit. Et Jésus annonce une délivrance. Alors que les enseignants religieux de l'époque annonçaient une loi, annonçait des dogmes, annonçait une doctrine, annonçait des préceptes, des enseignements dans lesquels tu devais entrer pour essayer de te conformer, de te mouler. Puis la religion, c'était quelque chose qu'il fallait porter sur soi, puis essayer d'être parfait comme les gars qui nous enseignent en avant parce qu'eux autres ont de l'air parfait. Puis Jésus vient, Jean-Baptiste le précède, puis il dénonce l'hypocrisie de ceux qui prétendent être parfaits, puis ils invitent tous ceux qui se sentent imparfaits à venir à Dieu. Il y a une parole de grâce, d'accueil, d'espoir, de guérison qui est là. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde peut venir à Jésus. Il n'y a personne qui ne peut pas venir à lui. Puis en même temps, dans son enseignement, constamment, il affirme, il déclare, il enseigne avec autorité, une autorité qu'on n'a pas connue en Israël. Son ministère est caractérisé par des paroles de grâce et d'autorité. Au verset 22, « Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » Ce qui est ironique dans le passage, lorsque ça s'est mentionné, c'est qu'il est à Nazareth. Fait qu'après avoir dit ça, ils disent tout de suite, « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Ils étaient sceptiques parce qu'ils connaissaient son père, qu'ils pensaient probablement être son père naturel. Puis ils disaient, « C'est weird cette affaire-là. » Ce gars-là n'a pas été formé comme un docteur de la loi. Il n'est pas supposé connaître les Écritures comme ça. Il ne vient pas d'une lignée de docteurs de la loi. Il ne fait pas partie de la tribu des sacrificateurs. Comment est-ce que ça se fait? Son père est charpentier. Et il faut voir beaucoup d'ironie dans cette question-là. Parce qu'après, Jésus va les reprendre pour leur incrédulité. Jésus apporte un message d'espoir. Il redonne de l'espoir. Et il le fait avec autorité. Il déclare que cette prophétie-là, qui remonte à des centaines d'années auparavant, s'accomplit aujourd'hui. Et je pense qu'il faut saisir que c'est une partie du ministère de Jésus encore aujourd'hui. Si tu es en train de t'interroger sur le christianisme, puis tu commences à lire les Écritures, il y a des choses qui vont te bouleverser. Il y a question d'esprit impur, de démons, de miracles, de guérisons. Il y a des choses qui vont te bouleverser. Mais certainement, une des choses qui va te frapper, lorsque tu vas être en train de lire les évangiles, c'est à quel point Jésus enseigne avec grâce et puis enseigne avec autorité. Il y a un réconfort dans les paroles de Jésus parce que je sens que je suis en train de m'abandonner entre des mains sûres qui vont me protéger. Je ne parle pas de l'institution. Peut-être que ton rapport avec le christianisme, c'est un rapport qui est c'est une relation avec l'institution, avec ce que tu définis comme l'Église. Puis là, il y a eu des abus d'autorité. Puis non, il n'y a pas de sécurité là-dedans. Tu ne comprends pas mon homme. Moi, je n'ai pas trouvé de sécurité dans ta religion. Ce n'est pas de ça que je te parle ce matin. Je te parle de lire les Évangiles avec un cœur ouvert. Ils sont extrêmement nombreux, les gens qui, à la fin des fois même, ne croient pas au christianisme, mais disent « J'ai rencontré en Jésus un enseignant que j'ai rencontré nulle part ailleurs. » Des gens qui nous disent « J'aimerais ça être convaincu comme toi parce que tout est là, là-dedans, c'est clair. » Mais tout est là, là-dedans, en Jésus. Parce que Jésus enseignait avec autorité et avec grâce. Puis c'est une parole qui va être rejetée. C'est une parole qui ne va pas être accueillie toujours. Jésus est à Nazareth, il va être complètement rejeté très rapidement lorsqu'il va, il sent le sarcasme et il va les confronter là-dessus. Puis il les insulte en quelque sorte. Il leur dit, écoutez, c'est normal que vous accueillez pas nul n'est prophète dans son pays. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Laissez-moi vous rappeler le prophète Élie. Lorsque le prophète Élie, lorsqu'il manquait de nourriture en Israël, vers qui est-ce qu'il est allé pour qu'on prenne soin de lui? Il est allé à l'extérieur d'Israël, il est allé vers une non-juive. Lorsque Élisée a dû guérir un lépreux, vers qui est-ce qu'il est allé? Il est allé vers un non-juif pour le guérir. Parce qu'il n'aurait peut-être pas trouvé la foi en Israël. Ils comprennent. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça va se réaliser littéralement plus tard. Parce que le message de la bonne nouvelle du royaume va être accueilli par les non-juifs d'une manière extraordinaire. Et ça, c'est tout le livre des Actes et c'est toute l'histoire du christianisme jusqu'à aujourd'hui. Il y a des Juifs qui vont se convertir, mais la masse des conversions va venir des non-Juifs. Et la foule se lève, ils sont offensés, ils le conduisent sur le bord du ravin, ils veulent le jeter en bas. Un bel écho de ce qui s'est passé lorsque le diable a amené Jésus au sommet puis il a dit, vas-y, tente ton père, laisse, jette-toi en bas pour voir s'il t'attrape. Jésus avait encore cette tentation-là qui lui était présentée. Avec autorité, il s'en va, puis ils ne peuvent pas lui faire du mal. Et c'est une parole qui est voilée. Le ministère de Jésus, c'est un ministère qui apporte une parole de grâce et d'autorité, mais c'est une parole qui est voilée. Elle est voilée à ceux qui ne cherchent pas Dieu. C'est un petit peu pour ça, des fois, qu'on dit aux gens, « Regarde, si tu veux lire les Écritures, fais juste une chose. » Fais une prière avant. Tu peux la faire comme, tu sais, comme le top sceptique, le top non-croyant. Dieu, je sais que tu n'existes pas, je sais que je ne vais rien tirer de ça, mais juste au cas où, je veux dire, je suis fair play, je suis à l'écoute. Je vais lire. C'est parce que si tu pars en disant, moi, je vais démolir ça, Dieu est gracieux. Tu sais, on a vraiment des belles histoires de gens qui lisaient les Écritures juste pour démolir le christianisme, puis ils s'en vont dans le ministère, ils prêchent toute leur vie l'Évangile. On en a des histoires comme ça aussi. Mais quand même, il y a aussi cette idée dans les Écritures que si tu ne veux rien savoir, Dieu va te laisser dans ton entêtement. Et là, c'est comme souligné au marqueur jaune parce que les esprits impurs comprennent mieux qui est Jésus que les gens de Nazareth qui voient des miracles. Eux sont là puis ils déclarent, puis ils disent chut, chut, pas de suite, c'est plus tard, voulant dire trop. Fait que je vous pose une question rapidement. Est-ce que ton ministère auprès de ta famille, est-ce que ton ministère auprès de tes amis, ton ministère auprès des collègues de travail, les étudiants à l'école, n'importe qui, est-ce que ton ministère, c'est un ministère seulement en action ou c'est un ministère en parole? Est-ce que le royaume de Dieu est annoncé dans ta vie seulement en action ou est-ce que tu es capable d'annoncer le royaume de Dieu? Avec des paroles de grâce et d'autorité, une conviction que c'est vraiment là que se trouve la vérité. Parce que le ministère de Jésus, c'est un ministère en parole. Mais ce n'était pas juste du blabla. C'est un ministère en action aussi. Et les gens étaient confondus. Parce que Jésus n'est pas venu simplement enseigner des principes. Il aurait pu le faire. Je veux dire, Jésus, ça aurait pu être comme je m'assois, vous venez écouter des conférences incroyables. À la fin de tout ça, je vais publier un recueil, puis on va le publier, puis ça va s'arrêter là. Mais si Jésus avait fait ça, les gens n'auraient pas découvert entièrement le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume uniquement parole. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Parce que Dieu ne fait pas que nous enseigner puis nous dire qu'il nous aime. Dieu, c'est celui qui s'incarne jusqu'à mourir sur une croix. Le royaume de Dieu, c'est en action et en parole. Et donc, on découvre Jésus qui exerce cette même autorité en prenant autorité sur des démons, un monde invisible qui est comme obscur pour nous. Pendant le ministère de Jésus, ce monde-là va devenir plus apparent que jamais à travers même l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, à travers des miracles aussi, comme on n'en a pas revu avec une telle intensité. Puis je crois que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Je fais partie de ces cinglés-là. Jésus guérit des maladies, Jésus chasse des esprits impurs, et il le fait avec autorité. De la même manière qu'il prend autorité sur les esprits impurs, il va prendre autorité sur la maladie. Les gens n'ont jamais vu ça. Et comme on va le voir dans la suite de l'Évangile de Luc, ses actions ne vont pas s'arrêter à ça. Jésus va vivre d'une manière qui bouleverse toutes les conceptions de la religion de l'époque. Jésus va accueillir des prostituées, il va accueillir des lépreux, il va les accueillir comme s'ils n'étaient pas atteints d'aucune lèpre, puis il va les toucher. Ça va être un ministère où tes actions parlent de l'amour de Dieu constamment. Donc, ton ministère à toi. L'expérience que les gens autour de toi ont de ton ministère à toi. Est-ce que c'est juste du blabla? Quand tu es avec les chrétiens, tu sing the song with the choir. Tu connais toutes les chansons, tu connais la toune. Peut-être que tu enseignes, tu es un prof. Tu enseignes la parole de Dieu. Peut-être même que tu as instauré cette discipline-là dans la maison, on prend un temps dans la parole régulièrement, on ouvre les Écritures. Est-ce que ta vie a fit avec ça? Est-ce que ton ministère est en action aussi? Non, toi, tu es de ceux qui proclament. Moi, je proclame. Les autres servent. Moi, je proclame. Tu ne peux pas proclamer le royaume de Dieu si tu le fais juste en faisant bla, bla, bla. Même si tu dis toute la vérité. Parce que tu ne le fais pas comme Jésus l'a fait. Parce que ça ne ressemble pas à Jésus. Le royaume de Dieu s'annonce en parole et en action. Le royaume de Dieu s'annonce avec une parole d'autorité qui vient apporter de la lumière là où il y a de la confusion. Une parole de grâce qui apporte de l'amour où il n'y en a pas. Mais des actions aussi qui sont puissantes parce qu'on vit autrement, on vit dans le royaume de Dieu. Et ça transforme toutes nos actions. Et lorsque les gens entrent en contact avec toi, avec ton ministère, ton épouse, ton mari, tes enfants, tes voisins, tes amis, tes collègues de travail, les gens à l'église, les chrétiens avec qui tu sers, ils entrent en contact avec le royaume de Dieu parce que la bonne nouvelle du royaume s'annonce en parole et en action. Est-ce que c'est ça l'expérience des gens autour de toi? Est-ce que tu as le courage d'annoncer le royaume de Dieu? Avec autorité, comme Jésus. La conviction que dans un monde qui n'est pas réceptif à tout ça, mais qui a besoin de ça. La conviction qu'ils ont besoin de voir des gens qui, avec grâce et avec fermeté, vont oser dire qu'il y a de l'espoir ailleurs qu'en toi-même. Il y a de l'espoir dans un autre royaume. Est-ce que tu connais le royaume de Dieu? Si tu connais le royaume de Dieu, tu l'annonces en parole et en action. Mais est-ce que tu connais le royaume de Dieu? Tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, 70 ans, 80 ans. Quand tu t'arrêtes là, puis tu dis, ma vie, qu'est-ce que je fais avec? C'est une question qui se pose tout seul avec toi-même ou qui se pose devant Dieu pour dire, Seigneur, ma vie t'appartient, je veux te glorifier, montre-moi comment je peux servir ton royaume. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nul n'est comparable à toi, Jésus. Seigneur, je pourrais d'aucune manière prétendre en annonçant ton royaume à mon épouse, à mes enfants, à mes voisins, à mes amis. Je ne suis pas comparable à toi, Seigneur. Il y a quelque chose en toi qui fait qu'on veut t'adorer, qu'on veut t'honorer, Seigneur. Mais Seigneur, je peux dire, depuis plus de 20 ans, je peux dire avec joie, avec espoir, avec sécurité, avec paix, que je ne bâtis pas le royaume de Yannick. Je peux dire avec réconfort, avec assurance, que je ne sers pas le royaume de Yannick. Et avec conviction, je peux déclarer que j'appartiens au royaume de Dieu. Seigneur, notre prière comme Église, c'est que lorsque les gens viennent nous visiter le dimanche matin, lorsqu'ils visitent nos petits groupes, lorsqu'ils entrent dans nos foyers, lorsqu'on les invite à manger, lorsqu'ils nous côtoient au travail, à l'école, à l'université, à la polyvalente, au cégep, lorsqu'ils se retrouvent avec nous autour d'un café, à quelque part, dans ces paroles d'autorité et de grâce, à quelque part dans ces actions tellement différentes, ils détectent que j'appartiens à un autre monde, que j'appartiens à un autre royaume. Et Seigneur, on veut être cette Église qui avec foi et avec grâce, proclame ton royaume, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et on veut être cette Église, Seigneur, qui à travers ses actions, proclame ton royaume, Seigneur, la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Amen.